Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de José Fortunato, J. Caffray, Villalon Sébastien, Frédéric Genoux, Marianne, Pascal Bousquet, Rémi Chenot, Grégory Le Sueur, Rémi X et Florian Cody.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech numéro 154. Nous sommes en mars 2015 et nous allons discuter de plein de choses qui nous réjouissent, qui nous excitent quand on est des vrais geeks, c'est-à-dire des nouveaux appareils. Alors il y a bien sûr la conférence d'Apple qui vient de se terminer, avec notamment des informations sur l'Apple Watch et évidemment le nouveau MacBook qui a été annoncé. On a aussi le Mobile World Congress qui a eu lieu la semaine dernière avec beaucoup de téléphones, mais pas que. On vous parlera de quelques-uns de ces produits. Et pour m'accompagner, j'ai comme d'habitude Jeff qui nous vient en direct de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff ?
Ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et non, je ne vais pas me jeter sur l'Apple Watch.
On va en parler dans quelques minutes. Je pense que tu ne seras pas le seul. Mais on verra. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir pour la première fois Geoffroy, qui nous rejoint depuis Tom's Guide et qui était, lui, au Mobile World Congress. Comment vas-tu, Geoffroy ?
Ça va très bien. Et après une bonne semaine de Mobile World Congress, de salon comme ça, j'ai pris une semaine de vacances. Donc ça fait du bien.
T'as bien raison, ce genre de salon est généralement épuisant. Et tu nous fais l'honneur de casser tes vacances pour venir participer au Rendez-vous Tech.
Oh, je suis sur mon PC, j'ai mangé des rouleaux de printemps après avoir regardé la conf, il y a pire.
C'est ça le plaisir d'être podcasteur, effectivement. C'est ça. Bon, ben on va vous parler, on va commencer par la conférence Apple et puis on enchaînera sur les smartwatches. Je pense qu'il y a des choses à dire sur les smartwatches en général cette année. Et ensuite, le reste du Mobile World Congress. On va se lancer tout de suite avec la conférence Apple qui s'est terminée il y a quoi, une heure et demie. Et je vais passer sur quelques news rapidement qu'on mentionne juste pour le principe. D'abord, l'Apple TV a baissé de prix. Et d'ailleurs, je ne sais même plus, je ne sais même pas si elle a baissé de prix en France aussi. J'imagine que oui, mais c'était une annonce tellement rapide.
Tellement minime, ouais.
Ouais, tellement minime, je ne suis pas sûr que ça soit hyper important.
Alors là, de toute façon, c'est de la dope, ça ne marche jamais.
Ah, c'est vrai ? Tu voilà, t'en es pas dit. Content, toi ?
Écoute, j'en ai 5 au bureau et c'est la guerre la plus totale pour les faire fonctionner, pour se connecter au truc. C'est une dope, mais sans nom.
D'accord. Bon, eh ben, elle coûte 80€ maintenant en France. Et il y a HBO Now qui sera disponible sur l'Apple TV aux États-Unis. Évidemment, je doute que ça soit le cas en France. Mais c'est important pour le monde des médias parce que c'est la première fois qu'HBO est disponible ailleurs que sur les packages, que sur les bouquets des câbles opérateurs.
Oui, parce qu'il faut préciser que HBO Go, donc le service de streaming sur Internet, était déjà disponible pour les abonnés HBO, donc les abonnés à la chaîne câblée, qui eux pouvaient rattraper les séries sur Internet, mais c'était uniquement réservé pour les abonnés. Maintenant, il y a une formule de streaming web-only. Et à noter d'ailleurs qu'on a vu une nouvelle bande-annonce de Game of Thrones, et je n'irai pas jusqu'à dire que c'était le meilleur moment de la conférence, mais pas loin. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'était assez excitant. Et important, note importante, ça inclut cet accès HBO Now, l'accès à tous les programmes d'HBO du passé, du présent et du futur. C'est exclusif, entre guillemets, chez Apple pour le moment, mais uniquement pour le moment, c'est uniquement au lancement. Et c'est exclusif chez Apple, sauf pour les PC. Donc ça veut dire que c'est pas sur les...
Et tu disais qu'en France, a priori, ça n'arriverait pas. Effectivement, en France, c'est OCS qui détient les droits sur les séries HBO. Donc, il y a très peu de chances. Enfin, ils ont lancé même une chaîne de télé spécifique pour les chaînes HBO qui s'appelle OCS City. Donc, il y a assez peu de chances que ça arrive en France.
Qu'on le voit arriver. 700 millions d'iPhones vendus au jour d'aujourd'hui. C'est une expression qui ne se dit pas, je suis sûr qu'on va me le faire remarquer dans les commentaires. Et la satisfaction des consommateurs est remontée, elle était descendue un petit peu, elle est remontée à 99%, ce qui est un score assez important, mais ça prouve une fois de plus le succès de l'iPhone 6. Apple Pay, ils ont reprécisé... Et du 6 Plus, bien sûr.
Et du 6 Plus, parce que c'est ce que, dans les chiffres qui étaient donnés par Apple, effectivement, c'est des chiffres qu'on avait vu sortir ces dernières semaines. On a 49% de smartphones, d'iPhone, qui ont été vendus en plus par rapport à l'an dernier, ouais. Sur la même période.
Donc, ils ont effectivement, ça confirme le succès de l'iPhone 6 et du 6 Plus, qui n'est pas vraiment une nouvelle information. Apple Pay dans les distributeurs, etc., on en avait déjà parlé. Un rythme d'adoption de CarPlay, donc la possibilité d'avoir une interface spécifique pour votre voiture quand on y amène l'iPhone, qui est visiblement assez élevé, donc le rythme d'adoption assez élevé chez les constructeurs de voitures, aux États-Unis en tout cas. C'est une nouvelle intéressante si vous utilisez votre appareil iOS, iDevice dans la voiture. Et enfin, la partie de l'annonce qui, moi, m'a le plus intéressé, c'est les mises à jour des MacBook Air et du MacBook Pro Retina 13 pouces avec les nouveaux processeurs Intel de la gamme Broadwell, pour ceux qui suivent ce genre de choses, avec le fait que le MacBook Pro Retina adopte le trackpad à toucher de force, qu'on va expliquer dans un instant, qui est développé dans le nouveau MacBook, avec 10 heures de batterie, une petite augmentation de la batterie. Bref, moi, je pensais acheter un Mac portable, parce que j'aime bien leur portable plutôt que les PC. Je suis en PC sur le bureau, sur mon ordinateur de bureau, et j'aime bien les portables, les Mac pour les portables. Donc, je vis dans un univers un petit peu hybride. Donc, je pensais en acheter un, j'hésitais un petit peu, mais maintenant, j'ai que l'embarras du choix. Et justement, avant de passer au nouveau MacBook, il y avait une chose assez intéressante. Ils ont passé pas mal de temps sur un nouveau outil qu'ils ont présenté qui s'appelle ResearchKit, qui est une sorte d'extension de HealthKit, leurs outils de développement pour la santé. Et là, c'est pour faire de la recherche dans le domaine de la santé avec toutes sortes d'outils qui permettent aux chercheurs réunir des données extrêmement facilement et extrêmement en grande quantité, parce que l'un des plus gros problèmes de la recherche médicale, c'est le fait d'avoir des sujets à observer. Et là, en fait, ce qu'ils disent, c'est que l'iPhone peut être utilisé, je ne vais pas détailler la manière, mais de différentes manières, avec les capteurs, l'écran, etc., pour recueillir des données pour différents types de recherches, et que donc ils lançaient ce programme avec des chercheurs, et que ça pouvait avoir une influence importante sur la manière dont on fait la recherche, d'autant plus que dans un geste un petit peu inattendu, ou en tout cas inhabituel de la part d'Apple, le processus et les outils seraient open source, donc on peut même imaginer qu'ils soient implémentés sur les autres appareils. Donc ça dénote a priori d'une vraie volonté d'influencer le domaine de la recherche dans son ensemble. Quand je dis d'autres appareils, je parle d'appareils Android ou, aussi, voilà. Windows Phone ou tous les appareils mobiles. Quoi. D'ailleurs, même plus que ça pourrait aller plus loin.
J'avais juste une remarque aussi là-dessus, c'est que du coup, l'intérêt, ça va être pour les chercheurs de concevoir des applications qui vont permettre d'étudier, le rythme, le nombre de pas qui sont parcourus par une personne dans une journée, etc. Sauf que l'échantillon, il va être assez mince, ça va être les personnes a priori occidentales qui ont les moyens de se payer un iPhone ou en Chine, mais ça va être des échantillons uniquement dans les pays développés du coup.
C'est certain. Enfin, encore que avec Android, on peut peut-être aller beaucoup plus loin parce c'est que vrai. Ça se vend
côté
ailleurs. Et puis, c'est aussi un problème. Si tu veux, les recherches qui sont faites dans les pays en question ont déjà des difficultés. Donc, c'est très difficile d'obtenir des sujets pour les recherches. C'est un truc sur lequel
c'est ce qui est expliqué dans les vidéos de présentation.
Et donc, ça permettrait déjà d'étendre ça. Donc, bon, à voir où ça ira. Il est certain qu'on a souvent eu des annonces comme ça qui finalement ne se concrétisaient pas. Mais c'est c'était une chose que je voulais noter un petit peu plus que les autres. Et donc maintenant, dans nos univers futiles et matérialistes, parlons bien plus longuement de tous les gadgets qui ont été annoncés, à commencer par le nouveau MacBook qui pèse, qui est un MacBook qui est un petit peu une évolution du MacBook Air, mais encore plus fin, encore plus léger, encore plus tout en fait. Il pèse 900 grammes, 13 mm d'épaisseur au maximum, avec le même design en oblong que le MacBook Air, qui s'affine avec le bout, l'extrémité de l'appareil. Un écran de 12 pouces Retina qui fait 2304 par 1440. Pas de ventilateur. Non, pas tactile l'écran, bien sûr. Ben bon, ça, je crois que ça ne sert à rien. Mais pas de ventilateur. Des processeurs Intel Core M, donc la version qui consomme presque rien. 9 heures de batterie, donc moins qu'un MacBook Air 13 pouces, avec tous les derniers procédés, tous les derniers types de réseaux. 1 300 $, mais en France 1 449 € en prix de départ, arrivé le 10 avril. Et donc, ils ont détaillé les fonctionnalités, enfin les caractéristiques qui faisaient qu'ils avaient pu arriver à un tel niveau de finesse. Ils ont expliqué un nouveau procédé pour le clavier qui s'appelle le procédé papillon. Au lieu d'avoir des ciseaux pour chaque touche, c'est un procédé papillon qui est un petit peu différent. Et un trackpad sur lequel on peut appuyer avec différentes forces. Ils appellent ça le Force Touch Trackpad, qui permet donc d'avoir une action si on clique et puis une action si on clique un petit peu plus fort, avec de la même manière qu'on aurait par exemple avec un stylo un stylet qui sent la pression. Là, c'est un trackpad qui sent la pression. Ils ont donné un exemple qui était le fait de rechercher un mot sur Wikipédia ou de rechercher une adresse sur les cartes. Si on cliquait, on sélectionnait une adresse et qu'on cliquait un petit peu plus, ça allait directement sur le plan. Merci Geoffroy. Ouais, il y a aussi un retour de force qui est le Taptic Engine qu'on a sur l'Apple Watch. Je termine très vite. Ils ont fait un effet de style que j'ai trouvé vraiment réussi, qui était marrant. C'est que Tim Cook l'avait dans la main et il l'a refermé en disant « And there it goes ». Et le truc est tellement fin, et bien sûr avec la lumière et tout ça, il a quasiment disparu, quoi. Et « there it goes », ça veut dire « et voilà, il est plus là » ou « il est disparu » ou « alors il est là », enfin ça veut dire les deux choses en même temps. Et c'était un effet un petit peu à la Steve Jobs. Bref, c'était une présentation assez convaincante. Vous savez que j'aime toujours m'attarder sur la manière dont sont présentées ces choses. Je me suis tout de suite précipité pour aller voir les caractéristiques du Dell XPS 13 pouces, qui est l'un des concurrents directs du MacBook Air, pour voir... Qui est vraiment d'une qualité phénoménale. Il fait 18 mm d'épaisseur au plus haut, contrairement à celui-là qui fait 13 mm d'épaisseur, et 1,35 kg contre 900 grammes pour celui-là. Évidemment, c'est un 13 pouces, donc il est un petit peu plus grand, il a un plus grand écran, et l'écran arrive vraiment jusqu'au bord du châssis, contrairement au MacBook où il y a un petit peu plus d'espace.
Je me demande du coup d'ailleurs si l'XPS 13 n'est pas plus petit en taille globale que le MacBook.
C'est même pas MacBook. Impossible, ouais. C'est même pas impossible en largeur.
Et le XPS 13 d'ailleurs qui est vendu à partir de 800 euros.
Oui, et qui est vendu à partir de 800 euros. Non, un petit peu plus. C'est seulement 800 euros ?
C'est seulement 800 euros, oui.
D'accord.
J'étais sur le site français tout à l'heure, j'ai voulu vérifier par rapport au MacBook.
Effectivement, donc certainement un appareil de grande qualité aussi, la concurrence se fait à peu près là-dessus. Bon, là c'est un écran Retina, les versions Retina, enfin à haute résolution de l'XPS existent aussi avec des résolutions énormes qui sont un petit peu plus chères évidemment. Et dernière chose à noter, il n'y a quasiment pas de connecteur sur ce MacBook, il y a un seul connecteur USB type C et un jack pour les écouteurs. Je me retourne vers Jeff, qui est la personne qui achète des MacBooks tous les 6 mois. J'exagère. Est-ce que ça t'intéresse, ce MacBook, ce nouveau MacBook super fin, super Retina, mais sans connecteur ?
Non, je pense que, comme on le disait dans la pré-émission, c'est vraiment l'utilisateur de base que Apple va essayer d'avoir sur ce MacBook, plutôt que quelqu'un comme moi qui a besoin de plusieurs ports, extensions, donc le MacBook Pro 13 pouces Retina que j'ai, que j'utilise en ce moment pour faire cette émission. C'est vraiment une super machine qui a une batterie qui dure à peu près 8-9 heures et je n'ai pas franchement pour le moment de plan de la changer.
D'accord. Attention, tu touches un petit, il y a ton micro qui touche quelque chose, je sais pas quoi, pendant que tu parles, Jeff, ça fait un peu de bruit.
Désolé.
Ok, Geoffroy, toi, ça te, bon, je sais que t'es pas très Apple, mais
je suis pas,
c'est
je suis pas spécialement Apple. Je pense que là où c'est un peu compliqué, ça a été effectivement sur l'USB, donc la prise USB qui est en fait de l'USB-C, qui a un nouveau protocole d'USB qui va arriver incessamment sous peu, mais qui est pas encore là. On a quasiment pas de, enfin, en gros, l'intérêt de cette USB là, c'est que ça peut permettre de charger le MacBook. Donc comme on va avoir aujourd'hui une prise micro USB qui va permettre de charger un smartphone, qui ça va être via cette prise là également qu'on va avoir l'image qui va passer si jamais on a besoin d'un second écran, qu'on va avoir les clés USB aussi, etc. Et ça me paraît, et le problème c'est qu'aujourd'hui on a quasiment pas d'accessoires qui permettent tout ça, encore moins de hubs qui vont permettre de connecter différents appareils sur cette prise là en même temps. Donc c'est osé. C'est osé.
Mais n'aie crainte, Geoffroy. Apple te vend pour 80€ misérable un adaptateur qui te fait tout ça, qui te fait passer
magique.
À l'USB normal. Et...
magique.
C'est magique, effectivement. Bon, c'est sûr que pour ce genre, il y a absolument des problèmes avec cet appareil, comme à chaque fois qu'Apple fait ce genre de choix un petit peu radicaux. D'ailleurs, on se souvient que le premier MacBook Air avait une puissance extrêmement limitée et des défauts qui étaient notables.
Il n'y avait pas de lecteur CD à l'époque et c'était, tout le monde était choqué.
C'est ça,
aussi.
C'est ça. On pouvait acheter un lecteur CD à côté.
Ouais.
Je pense que ce MacBook, comme son nom l'indique, d'ailleurs, on a oublié qu'il a existé des MacBooks non Air et non Retina, et non Pro, pardon. Et c'était les vieux MacBooks plastiques blancs, en fait. Vous vous en souvenez, c'était les MacBooks destinés au grand public, contrairement aux Pro ou qui étaient destinés aux professionnels. Et je pense que là, pour quelqu'un qui s'en sert, je ne sais pas, des étudiants ou des gens qui s'en servent à la maison ou ce genre de choses, c'est à eux que ça leur est destiné. Et le fait qu'il n'y ait pas de quoi connecter à l'écran de présentation ou ce genre de choses est moins gênant. Bien sûr, il faut une clé USB, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Dropbox et tous ces outils, franchement, c'est moins gênant qu'il y a même, je ne sais pas, 2 ans, sans vrai port USB, ça aurait été inimaginable. Aujourd'hui, je pense que c'est envisageable et d'ici un an, ça sera très, très acceptable. Bon, ils sont effectivement... Et c'est une belle machine, c'est pas une machine exceptionnelle, mais c'est vrai qu'il est quand même très très fin. Je serais curieux de savoir s'il existe d'autres appareils de ce type-là, c'est-à-dire 12 pouces, qui sont aussi fins, aussi légers. Je suis pas convaincu. L'autre auquel je pensais, c'était l'Asus UX, je crois. Il y a un Asus qui est très très beau, mais je crois qu'il fait 13 pouces aussi, donc c'est difficile de comparer. Passons au morceau au plat de résistance, l'Apple Watch, avec, je dirais que la chose qu'on attendait, c'était, pour moi en tout cas, et j'ai eu l'impression que les autres, les gens qui me suivent avaient la même attente, c'était le fait d'avoir des informations sur d'autres fonctionnalités que celles qui nous avaient été présentées en septembre. On est généralement intrigué par l'Apple Watch, mais on n'avait pas été convaincu jusque-là. En tout cas, j'ai fait un petit sondage rapide sur Google+, auquel ont répondu 134 personnes au moment où je donne ça. Et parmi tous ces gens-là, bon, il y a toutes sortes d'utilisateurs, hein, que ce soit Android, Apple ou autre. Seuls 4% ont répondu « Oui, j'achète l'Apple Watch, je compte l'acheter. » 16% disaient « ça fait peut-être, mais il faut attendre de voir la conf de ce soir ». Bon, ensuite, il y avait « non, je préfère nourrir mes enfants, parce que ça fait un peu cher ». Et ensuite, de toute façon, moi, j'ai un vrai OS, pas un iProot. C'était une autre des réponses que j'avais proposées. Et enfin, les smartwatches, c'est pour les hipsters. Donc voilà, il n'y avait que 4% des gens qui ont dit « je l'achète parce que j'achète tout ce que fait Apple ».
Je pense qu'on a eu tellement peu d'informations. En fait, c'était une ressucée complète de la présentation de septembre. Donc, on pourrait presque s'arrêter là et dire, bah voilà, il n'y a que ça. On viendra à la question des, de l'autonomie qui a été un petit peu détaillée et des prix ensuite, mais... Ils ont refait le topo sur le fait qu'elle donne l'heure et la manière dont on peut avoir différentes montres, la communication, donc avec le digital touch qui vous permet d'envoyer des informations à quelqu'un d'autre qui a une montre, tout ça, lecture de mail complet, etc. On a un micro et un haut-parleur pour parler à sa montre et répondre à un appel sur sa montre, comme on s'en moquait il y a quelques temps avec d'autres montres. Ils ont fait un gros morceau sur la santé, le fait qu'elle va vous encourager, elle va vous motiver à bouger, tout simplement, pas forcément à faire du sport, mais à bouger. Le fait que ça vous rappelle de vous lever, ce qui est important aussi pour la santé. Et il y avait toute une série d'apps, de Siri à Apple Pay, Instagram, Uber, Passbook, Shazam, qui reconnaît les morceaux, des trucs dans les hôtels qui vous permettent de ne même pas aller au front desk, à la réception et d'aller directement dans votre chambre parce que le NFC de la montre va ouvrir la porte de votre chambre. Ça, c'est sympa, mais bon, encore faut-il que ça soit implémenté. Quelques apps comme ça, mais dans l'ensemble, c'était quand même exactement les mêmes fonctionnalités à la montre qu'en septembre.
Alors et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y avait justement ces fonctionnalités, ces applications qui étaient présentées, parce que le début justement de la présentation, c'était vraiment sur les fonctions de notification, et c'est des choses qu'on retrouve complètement, et moi j'avais l'impression d'assister à une conférence sur Android Wear en fait, où vraiment le tout début c'était la même chose, on a des watch faces personnalisables, on a des fonctions de notification, d'appel et tout ça, on peut parler à sa montre, et je me suis dit oui, et vous êtes pas les seuls. Et aujourd'hui, il y a la Pebble qui a 3-4 ans et qui le fait depuis un moment aussi.
On peut parler à sa montre On peut parler à la Pebble
Non, on ne peut pas parler à la Pebble.
D'accord, mais pour toutes les notifications. On peut parler à Android, oui. Bon, donc à la limite, je pensais avoir besoin de poser la question, mais même pas, quoi. Si on avait l'avis déjà fait en septembre, il n'a pas évolué aujourd'hui.
Et certainement pas avec les prix.
Jeff, quelque chose à dire avant qu'on passe au prix ? Peut-être que c'est ça la nouvelle info ?
Non, je pense que depuis le début, bon, la façon dont je l'ai caractérisé ce matin sur Bloomberg, où on m'a posé la même question, c'est en gros l'iPod version 1.0, c'était pas super, c'était pas super beau, ça marchait pas vraiment bien, ça avait pas une grosse capacité au niveau batterie, mais c'est vrai que ça crée une ligne de produits qui, in fine, allait révolutionner le MP3, sachant le MP3 player, sachant que à l'époque Apple n'était pas le premier à avoir un lecteur de musique. Donc je pense que c'est la même chose. C'est le premier produit d'Apple dans la catégorie. Ils ont fait c'est un peu un hodgepodge, un mélange de plein de choses, que ce soit donc de la notification, que ce soit des applications, que ce soit du NFC, que ce soit un petit peu de santé, de sensors, etc. Je suis pas sûr que c'est un produit qui va avoir un énorme succès au sens Apple, puisque par définition, 700 millions d'iPhone, 75 millions d'iPhone vendus dans le dernier trimestre, pour que ça bouge l'aiguille, move the needle pour Apple, ça veut dire des dizaines de millions d'unités vendues, et je ne sais pas si ce sera ce qu'on verra avec ce premier produit. Pour la première fois en tant que Apple fanboy dont tout le monde se moque sur le rendez-vous tech, je suis pas convaincu que je vais lâcher. Je sais pas, je vais voir un petit peu ce que mes copains qui se seront jetés sur leur Apple Watch et qui ont dépensé ce dont on va parler dans quelques minutes pour leur gadget, diront si c'est oh c'est super ou si c'est bon bah voilà j'ai cramé de l'argent quoi.
C'est vrai qu'il y a peut-être un facteur utilisation, voir si à l'utilisation c'est vraiment
agréable et utile, tout simplement. Ça, c'est le genre de chose qui ne peut se comprendre qu'à l'utilisation. Mais effectivement, moi, je ne suis pas très convaincu non plus. Geoffroy, toi, tu es un amateur de smartwatch en général ou pas ?
J'en ai testé une seule, c'était la Moto 360. Je n'étais pas spécialement convaincu par l'utilité. Je pense que si jamais les gens se mettent à adopter une montre, ça restera par le design. Et le problème, c'est que l'Apple Watch n'est pas spécialement joli. Donc, à partir de là, on verra bien, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait cartonne.
Alors, un petit peu plus d'informations. 18 heures de batterie en usage mixte, c'est ce qu'ils appelaient l'usage mixte, c'était... Alors, un peu allumé, un peu éteint, mais ils avaient détaillé le truc. C'était genre 90 notifications, regarde l'heure 90 fois, 45 minutes d'utilisation d'app, 30 minutes d'exercice avec la musique, etc., etc. Donc, ça faisait, on arrivait à 18 heures comme ça. 6 heures d'écoute de MP3, 7 heures d'exercice, donc de captage du rythme cardiaque. 48 heures si on ne fait que regarder l'heure et 72 heures en veille. La version, alors il y a deux tailles, hein, il y a la 38 mm et 42 mm. La 42 mm dure un petit peu plus longtemps. Au niveau des prix, on est à 399 € pour le modèle le plus simple et 449 € pour le même modèle simple mais en taille 42 mm. Donc 399 pour 38 mm, 449 pour 42 mm. Ça, c'est la version sport, donc en aluminium, avec un bracelet, une sorte de bracelet en plastique polymorphé, un truc du genre.
La version normale. Qui est assez moche, disons.
Qui est relativement moche. En noir, ça va. En noir, ça va, mais en couleur, bon, c'est sport, quoi. Ça fait un petit peu, vêtements de ski, quoi, un petit peu. La version Apple Watch en acier trempé, 38 mm, 649 €, 42 mm, 699 €. Donc 649, 699, 50 € de différence là aussi. Et enfin, la version
pour le
en
prix,
or.
Pour le prix plus bas, après, ça va dépendre du bracelet. On peut monter effectivement jusqu'à plus de 1 000 €.
Tout à fait, oui. En fonction du bracelet qu'on choisit. Ouais. Et enfin, pour la version Apple Watch Edition, qui est donc en or massif, on est à 11 000 €. Et ça peut monter jusqu'à 17 000-18 000 €, quelque chose comme ça. Et il n'y a pas, en tout cas qu'on entende aujourd'hui, de programme d'upgrade si jamais ils sortent la deuxième version de l'Apple Watch dans un an. Donc a priori, à moins qu'il y ait un changement, si vous achetez votre montre à 10 000 €, vous devez la remplacer dans 2 ou 3 ans quand elle sera un petit peu obsolète. Bon, j'imagine que le truc qui est important, qu'il est important de se rappeler, c'est que en fonction du prix, malgré les différences de prix, on a vraiment les mêmes fonctionnalités pour toutes les montres. Donc, a priori, si on veut mettre 11 000 € dans une machine qui fait exactement la même chose que la version à 400 €, ça veut dire que quand même, on dépasse le stade de la fonctionnalité. C'est vraiment une question de désir, une question de... C'est-à-dire que l'Apple Watch entre dans un domaine qui est vraiment risqué pour Apple, qui est celui de la bijouterie. C'est autant un appareil technologique qu'un bijou. Et je dirais que c'est 50% technologique, 50% bijou pour ces modèles-là. Et il n'est pas du tout certain qu'ils réussissent ni sur l'un des domaines ni sur l'autre. Parce qu'on l'a dit, on n'est pas convaincu par les fonctionnalités comme ça à distance. Et franchement, au niveau bijoux, je peux imaginer que certaines personnes mettront, 700, 800, 900 euros dans une montre, parce que, bon, pour une jolie montre, ça peut, c'est pas si extravagant que ça comme prix, mais je suis pas convaincu qu'il y ait suffisamment de gens qui soient prêts à le faire, quoi. Certains, oui, mais, enfin, je sais pas, je suis sceptique, quoi, là encore.
Et surtout qu'on reparlera de certaines montres, enfin, d'autres montres tout à l'heure, et il y en a qui sont beaucoup plus jolies que l'Apple, ou qui ont des écrans ronds, enfin, qui font vraiment beaucoup plus montres que le modèle d'Apple.
C'est effectivement ce qu'on a vu au Mobile World Congress, on va y venir dans quelques minutes.
C'est le problème principal d'essayer de rentrer sur une nouvelle catégorie. C'est-à-dire que tout dépend si tu regardes l'Apple Watch comme la smartwatch d'Apple ou si c'est leur premier essai de développer une pièce de joaillerie connectée. Et c'est un peu, moi, la façon dont j'ai toujours regardé la montre, c'est que c'est une pièce de joaillerie pour les hommes. Et pour que tu la mettes à ton poignet, c'est pas un problème d'efficacité ou de connectivité, c'est faut que ce soit joli, quoi. Et effectivement, même si dans sa version à 1 000 $ avec le bracelet un peu chiadé, la montre est pas mal, mais bon, tu peux avoir une montre à 150 $ qui va avoir plus de gueule, et tu peux t'en acheter 3 ou 4 de manière à changer en fonction de comment tu es fringué, quoi. Et c'est ça, en fait, pour moi, le problème, c'est l'ensemble des fonctionnalités que la montre Apple te propose. Il y a des choses qui sont assez sympas, mais je suis pas convaincu que tu utilises tellement que tu te rends pas compte que tu t'es fait avoir et que pour une fois t'as acheté un gadget Apple qui sert pas à grand chose, quoi.
Le problème, c'est qu'ils doivent réussir sur les deux plans, quoi. Ils doivent réussir à faire un objet technologique qui est utile, qui rend des services, et ils doivent réussir à faire un bijou qui fait envie. Alors, évidemment, on n'est pas sans savoir que le fait de faire envie est l'une des spécialités d'Apple, ce dont se moquent souvent certains observateurs d'Apple, d'ailleurs. Mais de là à avoir envie de dépenser le double du prix pour un appareil qui fait exactement la même chose, bien sûr qu'il y a une justification, c'est le fait que ça devienne, c'est du domaine du désir, c'est du domaine de la joaillerie, et il y a énormément de joaillerie, mais il faut que Apple réussisse sur ces deux plans, et c'est super compliqué, parce que si on veut une belle montre, on a énormément d'autres options. Alors peut-être que la version sport sera la seule qui sera vraiment le cœur de marché d'Apple, mais enfin, je sais pas, ce produit me laisse complètement sceptique à tous les niveaux, enfin sceptique et incertain, en fait, à tous les niveaux. C'est vraiment très difficile de prévoir ce qui va se passer. Et le prix qui est effectivement à 399 €, au début, moi, je me disais, je vais en acheter une, 350 €, c'est bon, plus ou moins acceptable. Je vais en acheter une pour la tester parce que je veux tester une montre connectée. Et vu que je suis un utilisateur d'iPhone, a priori, c'est l'Apple Watch qu'il faut ou rien. Et on peut en avoir d'autres, mais ça marche pas aussi bien. Et là, je sais même pas si, même pour tester, alors que c'est mon métier, je teste pas tout, hein, mais alors que c'est mon métier et que c'est, à mon sens, un événement important qu'Apple fasse une montre, je sais pas si j'ai vraiment envie. Je suis dubitatif, quoi. Vraiment dubitatif.
Je suis assez d'accord avec toi. C'est exactement le même processus que j'avais ce matin, où je me disais, on va quand même en acheter une, histoire de voir, quoi, parce que c'est le boulot, quoi. Et de toute façon, je suis sûr que l'on va voir dans notre activité, donc de capital risqueur, on va voir dans les mois qui viennent des boîtes qui viennent nous proposer des applications pour l'Apple Watch. Et puis, on va se dire, mais de toute façon, il n'y a pas de marché, parce que combien de millions d'Apple Watch ont été vendus, et au tout début, ça va être un nombre ridicule, un chiffre ridicule. Pour répondre à ta question, mon partenaire Charles Hudson était à un dîner la semaine dernière où ils discutaient justement, ils avaient fait une question tournante en disant, est-ce que vous allez acheter la montre Apple? Et en fait, quelqu'un avait dit, ça va être un flop aux États-Unis, mais ça va être un énorme succès en Chine. Parce que c'est le genre de bling que le marché chinois veut avoir, et ils vont dépenser un fric fou, et c'est là où ils vendront énormément de montres à 10 000 $ ou plus sur le marché chinois, parce que c'est du bling et c'est un signe extérieur de richesse.
On l'a pas précisé tout à l'heure, mais le MacBook également arrive en version dorée, et a priori pour ces marchés-là aussi.
C'est vrai qu'ils ont beaucoup parlé de la Chine, effectivement. Ceci dit, ils s'en vendent, hein, des appareils dorés, toujours ce doré un petit peu sobre, hein, quand même. Oui. Mais, ils en vendent beaucoup ailleurs aussi, mais... Pardon, fini Jeff.
Et donc, j'avais pas entendu qu'il y avait le MacBook version dorée. Ouais. Donc, c'est du bling et ce sera un marché potentiel. C'est pour ça, en fait, que WeChat est intégré en natif sur l'Apple Watch, alors que bon, WeChat est plutôt un service qui est un service pour le marché chinois. Donc je sais pas, je pense comme toi, je suis sûr qu'il y aura de toute façon énormément de succès. Il ferait un toaster doré connecté, ils en vendraient 1 million. Donc la question n'est pas est-ce qu'ils vont vendre 1 million, et de toute façon Apple va crier victoire parce qu'ils auront vendu 1 million de montres, sachant que le marché de la smartwatch aux États-Unis, ça va être de l'ordre de quoi, 1 million, 1,5 million d'unités par an. Donc ça veut dire qu'ils vont doubler le marché à eux seuls, mais c'est pas pour autant que ce sera un produit de masse, en tout cas dans sa première version, pour Apple. Cela dit, je pense qu'ils vont apprendre énormément de choses et qu'on verra la version 2 qui sera plus fine, qui durera plus longtemps, parce que la notion de mettre ta montre à ton oreille pour répondre au téléphone, enfin c'est n'importe quoi, je vois pas qui est-ce qui va faire ça.
Non, c'est pas à ton oreille, tu l'entends, normalement le haut-parleur est suffisamment puissant pour que tu l'entendes, encore que si tu es dans la rue.
Et comme ça tout le monde l'entend autour.
Ouais. Mais bon, c'est vrai que on a dit 700 millions d'appareils, enfin d'iPhone vendus, même s'il y en a, allez, 200 millions qui restent sur le marché, entre les 5, 5S et 6, il y a, selon différents sondages, 10% d'utilisateurs d'iPhone qui voudraient acheter une Apple Watch. Même si, allez, on fait du calcul à la hache, même s'il y en a 5% qui veulent acheter une Apple Watch, eh ben sur les 200 millions, ça fait quand même pas mal de montres vendues, quoi. Donc, sachant que, comme tu le disais, Jeff, il s'est vendu l'année dernière 750 000 Android Wear, et Pebble a vendu sur l'ensemble de son histoire 1 million de montres. Donc oui, ils vont faire exploser le marché, c'est sûr. Mais moi, la grosse question, ce que je me disais, c'est qu'on ne saura pas si l'Apple Watch est un succès au bout d'un mois. Comme tu le disais, ils vont dire « on a vendu 3 millions de montres, c'est le truc incroyable, c'est merveilleux ». Enfin, 1, 3, 5 millions, ce que c'est. Mais on ne saura pas au bout d'un mois. On saura au bout de 3 ou 6 mois, quand les gens ont décidé si oui ou non ils continuent à l'utiliser. Au bout d'un mois, on ne saura rien du tout, ça ne voudra rien dire, aucun chiffre ne voudra rien dire. C'est au bout de 3 ou 6 mois qu'on le saura. Et en parlant de smartwatch justement et de Pebble, parlons des smartwatchs en général. Ah oui, entre parenthèses, les précommandes pour l'Apple Watch commencent le 10 avril et il y aura des previews aux Apple Store. L'Apple Watch en or ne sera achetable que dans certains magasins sélectionnés, et pas que des Apple Store, bien sûr.
Chez Colette
notamment, évidemment. Enfin, on imagine. Encore que je ne suis pas sûr. C'était pour la présentation, c'était pour la hype.
Mais s'ils ont fait la présentation là-bas, j'imagine bien qu'ils vont la vendre là-bas aussi. On verra.
Et elle sort donc le 24 avril. Donc, à vos cartes bleues si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de gens qui ont sorti la carte bleue pour la nouvelle Pebble qui a été lancée sur Kickstarter et qui est devenue très vite le plus gros Kickstarter de l'histoire, alors que la première Pebble était déjà le deuxième plus gros de l'histoire. Là, ils en ont vendu pour 17 millions de dollars déjà. Ça représente, allez, on va dire 60 ou 70 000 montres, donc c'est pas non plus un truc invraisemblable, mais la montre est quand même assez jolie. Elle a un écran e-paper couleur qui est pas mal du tout. Il y a une version Pebble, alors elle s'appelle la Pebble Time, avec une interface qui va en avant et en arrière dans le temps, genre elle voit les trucs qui sont arrivés avant maintenant et qui vont arriver après, du type vos emails c'est avant, vos SMS c'est avant, et vos rendez-vous c'est après, le temps qui va faire c'est après, etc. Donc il y a une interface intéressante. Et il y a une version Pebble Time Steel qui est en métal, qui est assez jolie, qui est pas mal foutue, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à l'Apple Watch. Donc c'est un succès absolument phénoménal, et surtout un écran d'une grande qualité, toujours cette batterie qui dure 7 jours pour la Pebble.
On est loin des 18 heures d'Apple.
On est très loin des 18 heures d'Apple, c'est sûr. On a à côté de ça des montres qui ont été présentées au Mobile World Congress, comme la montre Huawei, qui est carrément, alors là pour le coup, super belle.
C'est magnifique.
C'est une montre ronde qui a des watch face logiciels d'une immense qualité. Une montre LG qui est aussi connectable à n'importe quel appareil, mais basée sur WebOS, qui a dans une certaine version une puce LTE, donc connexion 3G, enfin 4G en l'occurrence, si vous la voulez.
Je vais te corriger juste, c'est la GeoWatch donc Urban LTE qui est 4G et c'est la seule qui est sous WebOS. L'autre qui est la GeoWatch Urban classique, elle est sous Android Wear.
D'accord, bon bah voilà. Et ces deux montres sont vraiment magnifiques. J'en ai fait l'illustration de l'épisode, donc allez sur frenchspin.fr si vous voulez les voir. C'est les deux qui sont à droite dans l'illustration. Ça ressemble à des vraies montres pour le coup et en particulier la montre Huawei, mais elle est sublime quoi.
La Huawei est magnifique. La Huawei a un gros avantage en plus de ça, c'est qu'elle a un écran OLED, donc avec des contrastes très forts, avec des noirs qui sont vraiment très profonds, avec a priori une économie d'énergie par rapport aux montres avec écran LCD, puisque les LED noirs, enfin toute la partie noire de l'écran ne s'allume pas, et un revêtement de l'écran qui est en saphir aussi, enfin elle est vraiment très jolie, et a priori elle serait à peu près dans les mêmes prix que l'Apple premier prix, donc autour de 300-350 €, on n'a pas encore de précision, enfin de tarif précis là-dessus, mais pour le coup c'était une des belles sensations du Mobile World Congress.
Et elle est sortie un petit peu de nulle part, effectivement. Et moi, ça me fait dire que aujourd'hui, les montres Android sont arrivées à un niveau, au niveau de ce qu'elles promettaient il y a un an et demi. Là, on a vraiment des appareils qui sont ce qu'on espérait. Les montres Pebble, avec leur écran couleur et leur autonomie, sont là aussi quelque chose de vraiment... On a dépassé le stade pour toutes ces montres, le stade du gadget moche. Je crois que la chose qui revenait systématiquement, c'était l'idée de se sentir un peu con avec cet appareil qui était moche quoi, au poignet. Ça faisait super geek, on en parlait souvent. Là, on n'y est plus du tout, c'est de très beaux appareils. Alors bien sûr, les fonctionnalités restent limitées, on n'est pas plus convaincu par les fonctionnalités de ces appareils-là qu'on ne l'a été par le passé ou qu'on ne l'est par l'Apple Watch, mais en tout cas, elles font ce qu'elles avaient promis à un moment. Ce qui m'amène, moi, à penser que 2015, c'est vraiment l'année des smartwatches. Pourquoi ? Parce que si en 2015, si d'ici la fin de l'année, on n'a pas une vraie extension du marché, que d'ailleurs l'attention qu'amène l'Apple Watch sur ce marché va évidemment profiter à l'ensemble du marché, que ce soit Pebble ou Huawei ou les autres, ou Android Wear, si on n'a pas d'ici la fin de l'année un marché qui s'étend vraiment pour devenir un marché consommateur un petit peu plus large, je pense que ça veut dire que ce marché, à moins qu'il y ait une transformation notable de la manière dont les gens utilisent ces montres, je pense que ça restera un marché de niche. C'est 2015, c'est l'année ou l'année du test pour les smartwatches quoi.
C'est ce qu'ils vont tous faire, hein. Et même alors Sony a rien présenté cette fois, mais ils avaient toujours leur Sony, la smartwatch 3. Il y a Wiko qui avait présenté sa Wiko Watch, alors qui n'est pas sous Android Wear, qui n'a pas vraiment d'écran, qui est un peu comme la Withings Activity Pop, donc qui permet simplement avec un autre indicateur de mesurer le nombre de pas parcourus dans la journée et de vibrer pour les notifications. Celle-là, c'est 150 € en juillet. Mais effectivement, ils s'y mettent vraiment tous là.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est cette année que ça y est, les montres, elles sont là, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, les montres vont retourner au placard, quoi. Jeff ?
Non, c'est peut-être... Enfin, je pense qu'effectivement, maintenant que Apple est dans l'arène, ça légitimise complètement le marché. Est-ce que Apple se... Tu vois, imagine que tu vendes quelques millions de montres, mais que ce soit pas des dizaines ou des centaines de millions d'unités, puisque bon, ce que tu disais, c'est 20% sur le nombre d'iPhone vendus, ça représente quand même un énorme chiffre. Je pense qu'ils ont prouvé que après leur première version, que ce soit l'iPod, que ce soit l'iPhone, après il y a une succession relativement rapide de produits qui in fine arrivent à un iPhone 6 qui est quand même c'est un super téléphone. Bon, s'il avait une batterie plus longue, ce serait vraiment quasiment parfait quoi. Donc je pense que il va falloir éduquer le marché sur c'est ça en fait mon problème, c'est que j'en parlais ce matin sur Bloomberg, c'est quel est le use case, quel est la cible première de la montre Apple. Est-ce que c'est le mec qui reçoit ou la nana qui reçoit beaucoup de notifications et qui veut éviter de sortir son téléphone 30 fois par jour de son sac ou de sa poche? J'ai entendu ça. Est-ce que c'est la partie santé, suivi, les senseurs, etc.? C'était vraiment, je pense, le gros message de la première sortie de la montre. Je ne sais pas si c'était le cas aujourd'hui.
Mais en à tout peu cas, près c'est autant, ouais.
Ok, c'est un narratif que j'ai moins entendu, tu vois, et c'est peut-être parce que c'est dans mon cercle, les gens se disent, bah, je vais commencer à avoir, j'ai un gros téléphone, potentiellement un 6+, et en fait, la montre, c'est une petite fenêtre, une petite télécommande pour mon gros téléphone. Bon, ok, je vois pas pourquoi est-ce que je sortirais pas, tu vois, mon téléphone pour non, regarder ça, où est mon c'est, Uber.
C'est ça en fait, que je dis, en fait, c'est que... Ces fonctionnalités, ça y est, elles sont là avec ces appareils, qu'ils soient Android, Pebble ou Apple Watch, qui pour moi sont les trois gros acteurs du marché, Android Wear, Pebble et Apple Watch. Et ça y est, elles sont là, les fonctionnalités. Donc, si ça ne prend pas cette année, si les gens ne sont pas convaincus par ces use cases-là cette année, ils ne le seront pas plus l'année prochaine. À moins que tout à coup, il y ait des développements incroyables dans les utilisations. Mais c'est les promesses qu'on nous fait depuis des années, elles se réalisent maintenant. Donc, soit on les apprécie, soit on ne les apprécie pas. Mmh. Tu vois ma logique, Jeff ?
Ouais. Non, c'est pas pour autant. Je veux dire, si c'est une nouvelle catégorie, tu peux pas t'attendre à ce que ça fonctionne, tu vois, immédiatement. Donc, pour moi, le problème, le challenge d'Apple, c'est quoi ? C'est, un, de vendre un produit qui n'a pas une cible super déterminée, et deux, avoir un catalogue de produits du genre « Et salut, je voudrais des informations sur l'Apple Watch. » T'imagines un peu ? Alors voilà, donc vous avez la version sport, vous avez la version de base, vous avez la version luxe. Quel est votre budget ? Tu vois, comment est-ce que tu vas approcher la question que va te poser le client potentiel du genre « quelle est la montre que je vais sélectionner comme étant la potentielle cible pour toi ?» Donc, c'est là où on...
Oui, mais là, tu penses qu'à l'Apple Watch, il y a quand même les Android, les Pebble. Je veux dire, si on pense au smartwatch en tant que fonctionnalité...
Ouais, et à ce jour, c'est 1,5 million d'unités, et c'est vraiment, franchement, c'est pas grand-chose. À ce jour, la génération actuelle de technologie, de form factor, de fonctionnalité n'a pas été prouvée, ne s'est pas prouvée en tant que succès. Et je pense que Pebble, en tant que société indépendante qui a levé de l'argent auprès des VC, s'en est quand même relativement bien tiré. C'est un public relativement limité, mais en tout cas, ils ont vendu 1 million d'unités, et pour une start-up, c'est pas mal. Mais la question, c'est où est-ce qu'ils vont ? Où sont les 10 prochains millions ?
Geoffroy ?
Ouais, on a, enfin, ce qui est assez triste à observer aussi, c'est qu'aujourd'hui, on avait au Mobile World Congress Sony qui se présentait numéro 1 des smartwatches en France, numéro 1 avec seulement 30 000 unités vendues, ce qui reste très très peu. Voilà, donc on est vraiment encore sur un marché de niche et ils vont pas avoir le choix. Il va falloir qu'ils accélèrent.
Bah, c'est en ça que l'arrivée d'Apple sur le marché, comme tu le disais, Jeff, ça légitimise le marché, ça va évidemment le faire exploser, parce que par rapport à 30 000 unités, il est évident qu'ils vont en vendre beaucoup plus en France. Donc, mécaniquement, c'est pour ça que, pour moi, c'est cette année que ça va se passer. Les gens vont soit l'acheter et apprécier. Je ne parle pas que de l'Apple Watch, hein, mais cette arrivée va dynamiser le marché en général. Soit ils achètent et ils aiment bien, soit ils achètent, ils se rendent compte que ça sert à rien. Et là, pour les regagner, il faudra faire un effort qui me paraît surhumain, quoi. Donc, bon, on verra. Pour moi, c'est 2015, l'année des smartwatches. Peut-être que ça se plantera en 2015 et que ça réussira en 2016. Mais...
Bah, c'est vrai que si tu plombes $500 dans un truc qui ne te sert à rien, tu vas l'avoir mauvaise, quoi. Et de là à ce que tu... Et c'est pour ça que cette notion, j'en parlais ce matin avec mon équipe, tu achètes une montre à $17,000, c'est une version 1.0, et t'es stock avec. C'est pas comme une Rolex que tu vas pouvoir passer de père en fils sur plusieurs générations. Ouais. C'est vraiment ton caprice qui t'a coûté bien cher. Bon, effectivement, c'est du bling, mais c'est du bling qui va être très rapidement obsolète, quoi.
Bon, bah, je crois qu'aucun d'entre nous n'est vraiment convaincu pour les smartwatches, qu'elles soient Apple ou autres. On verra, hein, peut-être qu'on se plante tous. Peut-être.
Bah, tu vois, il y a Loïc Lemaire qui vient de poster que can't wait. Donc
Il est super impatient.
Il est super impatient.
Il reste Loïc. Ouais.
Non mais il y en a quelques-uns, il y a des gens qui sont hyper excités, mais moi ce dont je suis très curieux c'est de savoir, mais Loïc il court aussi, c'est un marathonien invétéré, donc pour ce genre d'activité je comprends, mais lui j'imagine qu'il avait déjà d'autres types de capteurs d'activité, donc
oui, il a une Garmin etc. Non, voilà, c'est plus et en plus ce qui est rigolo c'est qu'il a envoyé un lien sur l'article du Onion qui est donc un truc satirique qui tourne en satire la montre Apple, donc c'est assez rigolo quoi. Ouais. Faudra que je lui demande si c'était du lard ou du cochon.
Il y a un article sur The Verge qui dit 10 choses que vous pourriez acheter à la place d'une Apple Watch. L'un des exemples c'est 20 iPad Air 2, 28 montres Apple Watch Sport, une année de bouffe pour une famille de 4 personnes, une Rolex Datejust 36 mm acier et or jaune, une Nissan Versa, enfin bref, voilà, vous avez compris, ça continue comme ça, c'est très drôle, et bien sûr, ça nous fait rire. On va continuer avec le Mobile World Congress, avec trois produits qui me semblent intéressants à détailler, le Galaxy S6 de Samsung, le HTC M9 et le HTC Vive. Ou Vive, qui est un casque de réalité virtuelle développé conjointement avec Valve. Alors, le Samsung Galaxy S6 c'est un petit peu triste, mais rien d'exceptionnel, si ce n'est que c'est un excellent téléphone, un processeur 64 bits, un écran Super AMOLED, qui est, je pense, la chose qui a été la plus vantée du téléphone par les journalistes. Je ne sais pas si tu l'as vu, Geoffroy, mais tout le monde disait qu'il était invraisemblable, cet écran.
Alors, surtout celui du 6 Edge. Je ne sais pas si c'est celui-là que tu... D'accord. Oui, effectivement, l'écran est magnifique. Le problème, c'est qu'il y a... Pour l'instant, enfin, je crois que Samsung, j'étais pas à la conf, mais Samsung a présenté quelques applications pour l'affichage sur la tranche, donc l'écran se prolonge sur la tranche du smartphone. Je vois pas pour l'instant l'intérêt pratique.
En fait, c'est pas tout à fait la même chose que sur le Note Edge où l'écran, enfin, c'est un écran effectivement qui s'incurve aux extrémités. Donc l'écran se courbe uniquement aux extrémités comme le
sur les
le
deux
Note
côtés,
Edge,
les
des deux
côtés,
tout à fait. Ouais. Et ça donne lieu à des choses du type quand votre téléphone est posé avec l'écran sur le bas, il va s'illuminer avec une couleur spécifique pour vous signaler l'appel d'un de vos contacts, et la couleur change en fonction du contact. Il y a un capteur d'activité, un capteur de rythme cardiaque sur le dos à côté de l'écran de l'appareil photo, et vous pouvez répondre en mettant votre doigt dessus. Vous pouvez faire une réponse rapide, genre vous êtes dans une réunion, vous répondez, vous avez signalé que quand vous mettez votre doigt dessus, ça va dire je te rappelle plus tard ou ce genre de choses. Il y a un appareil photo de 16 mégapixels, 5 mégapixels pour devant, et surtout une ouverture à 1.9, ce qui est hyper intéressant.
Oui, mais ce qui veut pas dire grand chose si on n'a pas la taille du capteur en l'occurrence.
Bah enfin, oui, non, là c'est 16 mégapixels.
Souvent ils sont sur des ouvertures à f/2 ouais. qui sont correctes, mais qui dépendent vraiment de la taille du capteur du smartphone. Si jamais le smartphone a un tout petit capteur, on a beau avoir une ouverture à f/1.9, ce sera pas top.
Tu veux dire la taille effectivement du capteur, non pas le nombre de mégapixels, t'as raison.
C'est ça. Oui.
Chargement sans fil avec les normes WPC et PMA. Le Samsung Pay qui marche avec le champ magnétique et le NFC, donc c'est surtout pour les Américains, hein, le champ magnétique c'est la magnetic strip, le fait de passer dans la
bande
machine,
magnétique
la bande magnétique, merci, avec grosse sécurité, etc. Dispo cet été aux US et en Corée, peut-être en France aussi. Il y a un lecteur d'empreintes digitales qui est plus comparable au Touch ID, donc on n'a pas besoin de passer le doigt dessus en le bougeant, mais simplement on le pose et ça lit. Par contre,
qui marche avec le doigt mouillé.
Et qui marche avec le doigt mouillé, t'as raison. Par contre, pas de carte SD et pas de batterie interchangeable. La batterie n'est pas changeable du tout. Quelques apps Microsoft incluses dans le truc, dispo le 10 avril. Pardon, c'était Samsung Pay qui est disponible en été. L'appareil lui-même est dispo le 10 avril en 32, 64 et 128 gigas. Certaines mauvaises langues disaient qu'il ressemblait beaucoup à un iPhone 6.
Non, c'est il est beaucoup plus... Au niveau du design, on a quand même des grosses différences. Moi, du coup, le 6 Edge, parce qu'il y en a deux, hein. il y a un Galaxy S6 classique et il y a un 6 Edge qui est 200 euros plus cher. Donc, c'est celui avec l'écran qui va jusque sur les tranches. Le 6 Edge est vraiment très beau et je suis pas du tout fan du design des Samsung. Pour une fois, j'ai été relativement conquis. Après, 200 euros pour du design qui sera pas forcément, ça reste des gadgets, hein, les fonctionnalités jusqu'à présent qui ont été présentées. Je sais pas si ça vaut le coup.
Bon, en tout cas, c'est clairement, oui, un super bon appareil Android. Le S4 et le S5 avaient laissé les gens un petit peu de marbre. Le S6 a l'air d'être, et particulièrement le S6 Edge, a l'air de reconquérir le cœur des amateurs d'Android. Donc, c'est vrai que c'est un beau design. Je trouve qu'il y a certains éléments de design qui ressemblent effectivement à l'iPhone 6, mais bon, en même temps, c'est comme les télés, quoi, elles se ressemblent.
C'est sûr que quand on regarde le bas du smartphone, effectivement, bas, on retrouve les haut-parleurs, on retrouve la prise,
qui est effectivement agencé de la même manière, avec le même aspect, l'aspect arrondi, qui est super bien d'ailleurs sur l'iPhone, parce que pour glisser le doigt sur le bord de l'écran, c'est une fonction du design qui est effectivement utile. Mais bon, bref, c'est un très bon appareil. Le M9 qui est... Bon, là, c'est beaucoup plus rapide à décrire. C'est le M8 en mis à jour, quoi.
C'est ça. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise. Pour le coup, j'étais à la conférence HTC. Ils sont pas mal calmés sur la photo, notamment, parce que HTC, depuis 2-3 ans, depuis le premier HTC One, avait un gros défaut. C'est-à-dire qu'ils voulaient tout le temps mettre l'accent sur le son d'un côté. Le son, ils le faisaient très bien. Et la photo. Donc, ils avaient commencé avec Ultra Pixel, qui permettait de faire des photos en très forte luminosité, mais c'était un capteur de 1 mégapixel, ce qui était très peu, ou 4, je sais plus exactement. Ils ont fait sur le M8 Dual Camera, qui permettait d'avoir deux photos pour pouvoir ajuster derrière la mise au point. Et donc là, ils sont bien calmés, ils ont fait un capteur classique. J'ai plus la définition exacte, mais je crois que ça va être 16.
C'est 20 mégapixels derrière, voilà. Et 4 mégapixels devant.
Et c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la technologie Ultra Pixel, qui permet de capturer, enfin de prendre des photos en faible luminosité, ils l'ont mise en façade. Ce qui va être pratique, par exemple, pour les selfies, puisqu'on n'a pas de flash en façade, mais on va pouvoir prendre des photos en faible luminosité sans problème.
Donc un bon appareil, le même design à peu près que pour le M8 qui est...
Complètement.
Mais avec deux couleurs, un double coloris qui est sympa. Personnalisation des couleurs de l'interface utilisateur que j'ai trouvé pas mal. Vous choisissez en fait une palette de couleurs et ça vous arrange ça. En fait, vous choisissez par palette de couleurs, c'est pas mal foutu, bref. Disponibilité mi-mars, encore une très bonne option pour un appareil Android si c'est ce que vous appréciez. Des présentations assez sobres dans les deux cas. Samsung nous avait habitués à certaines choses un petit peu inquiétantes du côté des présentations. Mais Jeff, avant que tu ne disparaisses, est-ce que tu as entendu parler de cet appareil de réalité virtuelle développé par HTC en collaboration avec Valve? Est-ce que ça t'intéresse?
J'en ai entendu parler. On regarde un petit peu tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle en tant que thème d'investissement. Bon, c'est un petit peu encore les tout débuts de cette industrie. Clairement, avec leur achat par Facebook pour quelques 2 milliards de dollars de
l'Oculus, oui.
De l'Oculus Rift. On fait attention. Donc, c'est bien de voir d'autres fournisseurs de solutions matérielles, parce que clairement ça peut pas être que l'Oculus, mais c'en est encore au tout début, quoi. Cela dit, j'ai des copains qui ont essayé des jeux avec ce type d'environnement et c'est incroyable, quoi.
C'est vrai qu'ils avaient des choses intéressantes et on va vous en parler un petit peu plus après le départ de Jeff. Mais avant ça, on remercie Jeff de sa présence.
Merci à tous et désolé de ne pas être plus enthousiaste par rapport à un produit Apple parce qu'en tant qu'Apple fanboy sur ce podcast, c'est quand même mon rôle. Mais malheureusement, depuis le début en fait, depuis le jour où on a entendu parler, j'ai été relativement sceptique comme tu le disais Patrick. Et donc, comme de toute façon je suis pro innovation, j'espère que Apple nous montrera qu'ils avaient raison, que nous on avait tort et qu'ils vendront plein de petites montres.
Y compris à toi. Bah écoute, je crois que t'es pas le seul à être sceptique, donc ça va, même si on est quand même un petit peu déçu. On espérait un petit peu plus de mauvaise foi de ta part.
Eh ben non, tu as le package, ce que je pense, je le dis, et donc on verra bien si on est ridicule et ridiculisé
dans les
quelques mois qui viennent.
Bon, bah merci Jeff.
À bientôt, merci à tous, et Geoffroy, c'était un plaisir.
Également.
À la prochaine Jeff.
Allez, salut. Ciao.
Donc effectivement, on parlait... juste pour finir sur Samsung, ils ont fait une présentation beaucoup plus sobre avec... Il y avait plus de femmes dans les personnes qui ont parlé et il y avait moins de théâtre. On se souvient d'une présentation il y a 2 ans complètement hallucinante avec une sorte de cabaret. À New York, une sorte de cabaret incroyable avec une mise en scène avec hyper sexiste en plus. Enfin bon, bref. Ils ont fait une remarque marrante. Ils disaient, cet appareil, ils disaient, this one will not bend. Il ne va pas se tordre. Une référence à l'Apple, à l'iPhone 6 plus. Qui était assez marrante. Ils ont quand même beaucoup répété, on a tout repensé, c'est un appareil révolutionnaire, c'est
évidemment
complet. Franchement, c'était même encore plus que d'habitude, quoi. C'est le genre de truc qu'on... Franchement, ils l'ont tellement dit, moi, ça m'a fait penser aux moqueries qu'on fait d'Apple quand on critique, quand on parle de Johnny Ive.
Que Samsung veut faire tout comme Apple.
Franchement, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Mais bon, bref. Donc, ces deux appareils de très, très bonne qualité, effectivement. Le Vive de HTC, est-ce que tu as pu l'essayer puisque tu étais à la conf?
J'ai pas pu l'essayer, c'était très compliqué. Le problème, c'est qu'il fallait s'inscrire, il fallait prendre rendez-vous sur le salon pour éventuellement l'essayer, etc. Et quand on va au MWC, on n'a pas forcément le temps. On a déjà tout planifié précédemment, donc il faut trouver un créneau. Ce que j'ai noté quand même, parce que du coup, j'ai pu discuter un peu avec les gens de chez HTC France. Ça vaut pas HTC, ça vaut pas les développeurs et les gens qui sont à l'initiative du projet, mais c'est que parmi les fonctionnalités, déjà c'était pas du tout attendu. Un casque de la part d'HTC,
c'est une grosse surprise, oui.
C'est ça, tout le monde attendait une montre de la part d'HTC. Ça fait 2 ans qu'ils nous en parlent et on l'a toujours pas vu venir. Et finalement, on a eu le droit à un bracelet, alors qui est très bien aussi. C'est le HTC Fit
Grip,
qui est très fin. Qui est plutôt joli, et un casque donc qui était vraiment la surprise, et donc la fonctionnalité qui est assez innovante par rapport à l'Oculus Rift, c'est la possibilité de, quand on va se déplacer avec ce casque dans une pièce, on va se déplacer dans un jeu vidéo également ou dans un musée, enfin bref, l'avatar va bouger en même temps que nous. Et ce qu'on peut pas faire avec l'Oculus Rift, sur lequel il faut toujours avoir un clavier ou une manette pour gérer les mouvements.
C'est vrai que c'est une immersion beaucoup plus importante que ce qu'on avait avec un appareil comme l'Oculus Rift. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs dans la pièce. Alors, la pièce doit être relativement grande et ouverte. C'est l'un des problèmes pour nous qui habitons en Europe, où on a peut-être un petit peu moins de place dans les villes européennes. Mais il y a des capteurs qui sont posés dans deux coins de la pièce. C'est un système développé par Valve qui s'appelle Lighthouse, qui envoie des lasers et qui vous situe dans l'espace. Et donc, vous pouvez vraiment vous déplacer dans l'espace. Et il y a aussi deux sortes de manettes qui ressemblent à des Wiimotes, un petit peu, les manettes de la Wii. Ouais. Et ça situe vos mains dans l'espace. Donc, en quelque sorte, vous voyez vos mains dans l'univers virtuel. Et la qualité des écrans est extrêmement importante aussi. On a deux écrans séparés de très grande qualité avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc 90 images secondes. Et donc, c'est une immersion qui est encore plus importante que ça n'était le cas pour l'Oculus assis à sa chaise. Il y a des choses très intelligentes. Vous vous dites, par exemple, je vais me cogner dans les meubles ou dans les murs. En fait, il y a des caméras aussi, ou au moins une caméra, qui est sur l'appareil, et quand vous vous rapprochez du mur, ça met par transparence sur le monde virtuel dans lequel vous êtes, ça va le rendre un peu transparent et vous donner l'image de
du
ce
mur
qu'il y a dans
devant.
La pièce. Voilà, donc on n'est pas complètement on n'a pas cette dématérialisation.
On n'est pas dans une immersion complète.
Quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement transporté quelque part que ça devient bizarre. On a quand même, on sait où on est un petit peu, mais quand c'est nécessaire uniquement. Donc, il y avait des choses vraiment intéressantes avec ce truc-là, et notamment le fait que ces deux manettes, qui elles aussi sont situées dans l'espace, grâce au système de laser ou Lighthouse, les gens disaient que vous pouviez, par exemple, utiliser dans le jeu, il y avait un moment où vous deviez recharger un pistolet, vous pouviez attraper le chargeur, le mettre dans le pistolet en bougeant vos mains. Donc, cette immersion du corps entier était vraiment salutaire pour ce type d'expérience. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu différent, effectivement, qui est impressionnant, en tout cas.
Non, ce qui était intéressant, enfin ce qui était drôle aussi, c'est que le MWC, donc, qui était la même semaine que la Game Developer Conference, qui est donc le salon des développeurs sur le jeu vidéo, donc dans lequel tu as déjà parlé dans le rendez-vous jeu, et sur lequel on a retrouvé exactement le même thème, à savoir la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les Steam Machines, etc. Et donc Valve en a profité pour présenter les deux manettes qui n'étaient pas au MWC, mais qui étaient à la GDC.
Tout à fait.
Donc c'était bien synchro tout ça. Et ce qui est assez fort aussi de la part de HTC pour le coup, c'est que il y aura déjà des kits de développement qui seront disponibles a priori au printemps. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu pour les développeurs. Et ils prévoient une commercialisation pour le grand public d'ici la fin de l'année. Donc ça devrait arriver assez vite.
Ouais.
En espérant que ça soit pas aussi lent que les Steam Machines qui elles ont mis beaucoup plus longtemps. Mais
c'est vrai que c'est vers la fin de l'année, oui. Vers la fin de l'année. On note que Samsung a aussi annoncé un Gear VR spécifique pour le Galaxy S6. Donc cet outil pour transformer votre téléphone en casque de réalité augmentée sera utilisable pour le Galaxy S6 aussi. Et on avait également à la GDC Sony qui présentait le projet Morpheus, qui lui devrait arriver dans les mains des utilisateurs vers la mi-2016, début mi-2016. Donc là, ça m'amène à me dire que 2016 sera l'année de la VR, l'année de la réalité virtuelle. Comme
donc 2015 pour les smartwatches, c'est
exactement.
Ça.
2015, l'année des smartwatches, 2016, l'année de la réalité virtuelle. On verra. Bref, ce petit développement de Valve dans la réalité virtuelle qui était vraiment enthousiasmant. D'autres choses rapidement au Mobile World Congress. La conférence Microsoft Lumia qui était somme toute un petit peu chiante. Deux appareils d'entrée de gamme. Le Lumia 640 et 640 XL, 5 pouces et 5,7 pouces. Qui sont 3G pour le premier, disponibles en 3G, je crois qu'il y a des versions 4G aussi si je ne m'abuse, mais surtout des appareils quand même hyper performants pour leur prix qui est de 140 et 190 euros sans contrat. Donc franchement, un appareil Windows Phone qui en plus accueillera Windows 10 quand il sortira pour 140 euros sans contrat, c'est le prix de l'appareil, quoi. C'est assez incroyable.
Mais en même temps, c'était vraiment une des grosses tendances du MWC cette année, c'est que certes, on a eu le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge, le HTC One M9, mais tous les autres constructeurs, que ça soit Sony, enfin Microsoft, du coup, qui avait pour la première fois un stand depuis. Alors moi, ça fait 3 ans que j'y vais, c'est la première fois qu'ils avaient un stand sur place, mais c'est dû au rachat de Nokia. Donc que ça soit Microsoft, que ça soit LG, que ça soit Sony, que ça soit même Motorola, tous les autres constructeurs étaient là avec des smartphones d'entrée de milieu de gamme. Il y avait pas énormément de haut de gamme à part HTC et Samsung. Et en fait, c'est simplement parce que le haut de gamme se vend de moins en moins. On parlait d'Apple tout à l'heure qui est, donc a vendu 700 millions d'unités, enfin 700 millions d'iPhone au total et avec une hausse de 50% par rapport à l'an dernier. Mais c'est à peu près les seuls. Ils sont passés devant Samsung au niveau du nombre de smartphones vendus. Donc là, le haut de gamme se casse la figure depuis quelques temps et les constructeurs ont vraiment besoin de faire du volume. C'est pour ça qu'ils mettent l'accent sur le milieu et le haut de gamme, enfin le milieu et l'entrée de gamme.
Bah, ce qui est sûr, c'est que le milieu de gamme d'aujourd'hui correspond au haut de gamme d'il y a ne serait-ce que 2 ans, et l'entrée de gamme correspond au milieu de gamme. C'est, oui, il y a eu une baisse des prix.
Ils sont vraiment tous en train de reprendre, de reprendre leur, enfin de réassigner un peu leur gamme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des smartphones LG d'entrée de gamme qui sont vendus 150-200 euros, qui ressemblent vraiment, enfin qui reprennent le design du LG G3. On retrouve aujourd'hui sur le Sony M4 Aqua, si je dis pas de bêtises, pas mal de fonctions qui sont enfin, pas mal de fonctions qui viennent du Sony M4, et aujourd'hui, on a quasiment les mêmes caractéristiques sur le M4 Aqua que sur le Z2 qui est sorti il y a 2 ans. Enfin, ou voire même 1 an, parce qu'ils avaient un rythme d'un nouveau smartphone flagship tous les 6 mois.
Ouais, c'est assez impressionnant cette tendance. Et d'ailleurs, ça nous amène à une autre remarque que je voulais faire par rapport à ce Mobile World Congress. Bon, on va passer sur le Sony Xperia Z4 qui est une tablette qui est.
En Z4 tablette.
Oui,
Z4 n'a pas été présenté, ouais.
Oui, Z4 tablette qui est une sorte de comparable à l'iPad Air finalement.
En beaucoup plus fine, hein, pour le coup. Les Z4, enfin les tablettes de Sony sont parmi les meilleures du marché. Elles sont vraiment, elles sont légères, elles sont ultra fines. Elles sont vraiment impressionnantes.
Ouais, je sais pas s'il est plus fin que l'iPad Air 2. Ah si,
peut-être. C'est la plus fine.
Ouais. Donc, si vous cherchez une tablette haut de gamme sur Android, c'est plutôt là-dessus qu'il faudra vous diriger. En juin, quand même, toujours ce défaut de Sony d'annoncer des produits et de les sortir 5 ou 6 mois plus tard. C'est un petit peu décevant, ça, mais bon, on a l'habitude avec eux. Et donc, je disais, par rapport à cette tendance du marché à proposer des produits de plus en plus qualitatifs à des prix de plus en plus faibles, il y avait différents indicateurs qui montrent à quel point les télécoms sont en train de changer les pays en voie de développement. Jimmy Wales disait que le prochain milliard de personnes dont on prévoyait qu'ils allaient arriver en ligne dans les années à venir était en train d'arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, et que c'était dû effectivement qu'on ne le pensait au début des années 2000, et que c'était dû en fait effectivement au développement des smartphones qui a accéléré tout ça de manière significative. Il donnait l'exemple du Nigeria où en l'an 2000 il y avait seulement 0,1% de la population qui était en ligne, et qu'aujourd'hui il y avait plus de 38% de la population qui était en ligne, essentiellement grâce aux smartphones. L'un des problèmes qu'il y a ensuite est le fait des coûts de données, des coûts de connexion.
De la data.
Et le coût des données, et le coût de la data, exactement. Et c'est pour ça qu'il poussait l'idée qu'il fallait avoir certains partenariats avec les fournisseurs de services de téléphone mobile dans ces pays pour donner accès à certains sites gratuitement. Notamment, évidemment, Jimmy Wales y parle de Wikipédia, puisque c'est son entreprise. et il voulait donner accès à Wikipédia, notamment, gratuitement, à travers des deals avec les fournisseurs de services. Google parlait d'un projet qui s'appelle Titan, si je ne m'abuse, qui est le fait de fournir l'accès à Internet avec des drones alimentés par des panneaux solaires, donc qui peuvent rester dans les airs hyper longtemps, et le projet en est à peu près au niveau où était le projet Loon de ballons qui remplissent la même fonctionnalité. Le projet est au même stade que le projet Loon était il y a 2 ans, et aujourd'hui le projet Loon fonctionne quand même pas mal et peut à terme, grâce à ces recherches que fait Google, fournir un réseau de données conséquent dans certains pays. Ce sont les ballons qui montent dans la stratosphère, dans les hautes sphères de l'atmosphère, pour fournir de l'accès Internet. Il y avait aussi le fait que Google pourrait devenir un fournisseur d'accès Internet mobile dans les mois à venir, en tant que MVNO, mais seulement pour avec certaines limites. On imagine, enfin, on a entendu que ça pourrait être le cas uniquement pour certains Nexus, dans un premier temps en tout cas, pour le Nexus 6. Mark Zuckerberg y était pour présenter aussi internet.org et expliquer que ce n'était pas une menace au business des fournisseurs de services, etc., etc. Bon, il y avait plein de discussions sur ce sujet. Et c'est vrai que on a beau parler de tout ce qui est futilité des smartwatches et de ce genre de choses. Ouais. Là, ça a quand même une importance, quoi. Je sais pas si ça se sentait carrément quand on était là-bas, mais c'est
ça sent absolument pas, pour le coup. C'était, ouais. Alors, faut savoir que les conférences au MWC sont dans le hall 1, qui est vraiment le premier hall et sur lequel il faut faire la queue de longues minutes, etc., pour pouvoir y assister. Il y a rarement des présentations intéressantes dans ces conférences, enfin, dans ce hall-là. C'est vraiment beaucoup plus orienté business, stratégie et internet.org. Et c'est pas forcément ce qui est là qu'on va découvrir des nouveaux
le
produits,
plus sexy,
etc.
Ouais.
Donc, ouais, c'est pas le plus sexy. C'est intéressant sur ce que disait Jimmy Wales, qu'on a connu beaucoup plus défenseur de la neutralité du net. Mais
tout à fait, oui.
Mais sinon, oui, non, effectivement, c'est une des grosses tendances pour les pays émergents. Et on a eu une guerre là cette dernière année entre Apple et entre Google et Facebook là-dessus, notamment sur les satellites qui avaient été rachetés, pas sur les drones. Non, les drones qui avaient été rachetés, une société de drones qui devait être rachetée par, enfin qui intéressait beaucoup Facebook, qui a finalement été rachetée par Google pour justement émettre du Wi-Fi dans des larges zones.
Tout à fait, ouais. Pardon, excusez-moi, je suis.
Pas de souci.
Je suis un petit peu malade. Oula. Et ça commence à se sentir un peu là. Pardon. Mais bon, donc oui, effectivement, après toute cette futilité des Apple Watch, ça fait du bien de se dire que la technologie amène aussi du progrès et pas que de la vanité. Une petite conclusion sur le Mobile World Congress avant qu'on transite vers la suite.
Alors, j'avais deux choses rapidement à aborder. Ouais. BlackBerry qui a présenté un smartphone à écran tactile. On les attendait absolument plus. Enfin, BlackBerry, je pensais plus qu'il continuerait à faire des smartphones pour le grand public. Et le Leap, donc le BlackBerry Leap, qui est moyen de gamme, $275. J'arrive pas spécialement à savoir qui cible à ce prix-là et avec ces caractéristiques-là, mais j'imagine que c'est plutôt business pour équiper des armadas dans les petites entreprises, dans les PME ou dans les startups. En tout cas, c'est comme ça que la vidéo le présentait.
Ouais, à noter quand même que BlackBerry a réussi à devenir profitable. Ils font des profits maintenant, ils sont stabilisés. Moi, ça me paraît. Je suis pas certain que ça continue longtemps, mais c'est quand
ils
même.
Ils ont des profits grâce au service, en fait. Et le problème, c'est que justement, j'ai. Enfin, on verra, mais je suis pas certain que leur nouveau smartphone se vende bien. Ils avaient annoncé le Passport, qui était plutôt réussi aussi, mais très ciblé entreprise. Là, on a un smartphone avec tout écran tactile qui fait beaucoup plus grand public. À voir comment ça marche. Enfin, si ça marche derrière.
Ouais, c'est vrai.
Donc il y avait ça, il y avait Mozilla aussi qui était intéressant, qui présentait encore une fois Firefox OS pour la troisième ou quatrième année consécutive, et qui cette fois avait un discours qui était plutôt intéressant. Ils vont travailler avec des constructeurs et des opérateurs sur la fabrication de feature phones. C'est donc des smartphones à clapet, des smartphones avec clavier coulissant, etc., sous Firefox OS. Mais aujourd'hui, c'est un marché qui a quasiment disparu dans les pays développés, que ça soit en Europe, que ça soit aux États-Unis. On avait Nokia qui faisait ça avec la gamme HA, mais avec le rachat de Microsoft, ça tend à disparaître. Et donc, justement, Mozilla veut essayer de sauter là-dessus et de proposer des téléphones, des feature phones, justement, pour les marchés occidentaux. Donc, on pourra avoir davantage de produits Firefox OS en France assez prochainement.
Ouais, je pense qu'avec les tarifs qui se. Enfin, le type d'appareil qu'on peut avoir aujourd'hui pour 100 ou 150 euros, je suis pas certain que. Encore que peut-être ça peut faire des appareils
un
encore
téléphone
moins
à clavier.
Chers. Ouais.
Plus personne n'a téléphone à clavier. Il y a des
ah
gens
oui, mais
qui.
C'est parce que
qui,
plus personne
voudrait.
En veut, mais. Tu crois
ah, moi je dirais pas non.
Ouais, d'accord.
Moi je dirais pas non.
Peut-être, peut-être. Bon, eh ben merci Geoffroy. On va faire notre petite pause de remerciement avant de passer à notre partie news et rumeurs. Et comme d'habitude, je remercie encore une fois les gens qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech financièrement avec Patreon. Et donc, je vais remercier Daniel Chamberlain, Jean-Pierre Hulmeau, Grégoire Hervé Bazin, Julien Pierron, Nip Life, les amis de Nipcast, Pikachu Braise, Floki, Johan Denis,
Toxine et Arthur Cornillo. Je dis Johan Denis, je ne sais pas pourquoi je l'anglicise, je l'américanise. Ça se trouve, c'est Johan Denis, tout simplement. Merci à vous tous, en tout cas, de participer au financement du Rendez-vous Tech. Vous le savez, si vous appréciez l'émission, si vous vous dites « ça me fournit un service, ça m'énerve un petit peu, j'ai envie de répondre quand ils disent des bêtises » ou alors « j'apprécie quand ils résument l'actualité et ils donnent leurs avis pour que j'ai pas besoin d'aller chercher partout sur Internet toutes les news dont ils me parlent aujourd'hui », eh bien, pensez-y, peut-être que vous vous dites que le Rendez-vous Tech vaut, je sais pas, 3 $, 4 $, 5 $, 1 $ sur Patreon. Vous pouvez contribuer de cette manière. C'est patreon.com/rdvtech. Et pour, juste pour la petite histoire, j'ai eu un coup de panique c'est la semaine dernière. Je sais pas si t'as suivi ça. Je crois.
J'ai reçu les mails de notification de Patreon.
C'est
du
ça.
Coup.
En fait, franchement, c'est pas dur. Hein. Ce que j'ai à faire quand je publie un épisode, c'est vraiment pas dur. Il faut que j'aille, que je le publie, ou alors Florent le publie pour moi, qui travaille avec moi. Et ensuite, il faut que j'aille sur Patreon et que je l'inscrive sur Patreon. C'est pas compliqué, j'ai un truc à faire. Et bien, figurez-vous que j'ai oublié de faire ça pour un des deux épisodes le mois dernier. Je m'en rends compte le 4 mars, je crois. Et là, je me rends compte qu'il n'y a que la moitié de mon salaire, entre guillemets, sur mon compte Patreon. Et là, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe ? J'envoie un mail à mes contacts chez Patreon. Je leur dis, les gars, il y a un truc qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui vous arrive ? Est-ce que vous avez un retard ? Bon, machin. Et là, ils investiguent et ils me disent, j'ai l'impression que tu n'as inscrit qu'un seul épisode le mois dernier. Est-ce que c'est normal ? Et là, panique. Je me dis, bon sang, si ça se trouve, je ne vais pas pouvoir corriger le truc. Heureusement, Patreon, ils sont super cool. Ils ont réussi à rétroactivement le faire, le lancer. J'ai prévenu tout le monde, tous les patriotes qui ont très gentiment dit que ce n'était pas grave. Ils m'ont envoyé des mots pour me dire...
soutien.
Oui, pour me soutenir, pour me calmer de mon stress. Et finalement... Parce que moi, j'étais paniqué, quoi. Je me disais, la moitié de mon salaire, je ne vais pas pouvoir payer mon loyer. Comment je vais faire, machin. Bon, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Tout le monde a été super sympa. Tout s'est bien passé. Patreon, ils ont été formidables. Ils m'ont aidé à corriger ça. Bref, je crois que je n'oublierai plus jamais de le faire parce que ça a été une telle panique. Bref, voilà, je voulais vous partager un petit peu ce moment marrant, qui était moins marrant sur le moment, mais tout de même. Et donc, si vous voulez participer, vous le savez, c'est sur patreon.com/rdvtech. Les liens sont partout, de toute façon, dans les notes de l'émission, sur le site frenchspin.fr, etc. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de participer, mais... c'est quand même beaucoup de travail de faire tout ça, donc si vous appréciez le travail fourni, pensez-y, ça me ferait plaisir. Et merci évidemment à tous ceux qui choisissent de le faire. Un petit commentaire sur l'épisode 153 avant de nous lancer dans les news et rumeurs. On avait parlé du, entre guillemets, pied de biche numérique qui permettrait, en théorie, de casser le chiffrement de messages qui étaient correctement chiffrés. C'est-à-dire que si on avait une puissance de calcul suffisante, en partant du principe que certaines agences de renseignement auraient des ordinateurs méga puissants, il pourrait, en y mettant suffisamment de temps et suffisamment de puissance, casser le chiffrement des messages correctement chiffrés, des algorithmes correctement chiffrés. Alors, plusieurs auditeurs sont venus par mail et sur les notes du Rendez-vous Tech de l'épisode précédent me dire que, en fait, pas du tout. Il y a notamment Jean-Philippe Ancos, Gilliac et Irving qui m'ont dit « Attention, un logiciel qui chiffre correctement les messages, si le chiffrage est bien implémenté, c'est vraiment quasiment... Enfin, on peut estimer que c'est pas possible à craquer. C'est tellement compliqué, ça prend tellement de trillions, de trillions, de trilliards d'années qu'en fait, ça ne se craque pas. Les attaques viennent quand les algorithmes de chiffrement sont mal implémentés ou alors, de manière beaucoup plus prosaïque, par du travail de police beaucoup plus classique, c'est-à-dire par du social engineering, par du travail de police qui vont placer, par exemple, un spyware sur votre ordinateur pour trouver votre mot de passe directement de cette manière, ce type de choses. Donc, c'est pas impossible à faire, mais c'est pas par le fait de casser le chiffrement. Donc c'est une correction que je voulais amener et qui en plus rend la question de savoir si on veut choisir, comme on le disait à l'épisode précédent, vous vous en souviendrez peut-être, si on veut choisir entre la sécurité et... Je ne sais plus comment je l'avais mentionné, entre le fait d'avoir des données personnelles vraiment sécurisées et le fait de rendre le travail de la police relativement aisé, et ben le choix n'est pas facile du tout et il l'est encore moins parce qu'il n'est pas possible de casser ces algorithmes, même de manière ciblée. Par contre, il est possible, par du travail de police classique, mettre des spyware, mettre des micros ou mettre ce genre de choses. Il est possible effectivement d'avoir ces messages, mais la précision était importante et maintenant elle est faite. Est-ce que tu faisais partie des gens qui avaient sauté au plafond quand j'ai dit ça?
Absolument pas.
D'accord. Bon.
je suis un auditeur sage et calme.
J'étais pas le seul alors, c'est bien. La FCC aux États-Unis a annoncé qu'elle allait mettre en place ou plutôt reclassifier les fournisseurs d'accès Internet sous ce qui s'appelle le Title II, qui les classe comme des fournisseurs de services d'utilité publique et qui fait qu'ils ne peuvent pas contrevenir à la neutralité du net. Alors c'est un débat hyper chaud et hyper complexe aux États-Unis qui fait rentrer en jeu la question de la régulation qu'a le droit de mettre en place la FCC. Il faut savoir que c'est la FCC notamment qui a interdit, il y a longtemps, mais qui a interdit le fait de dire certains mots à la télé. Donc il y a 7 mots qu'on n'a pas le droit de prononcer à la télé qui sont considérés comme indécents.
Est-ce qu'on peut les dire ou pas?
Oui, tu peux, vas-y. Bon, c'est des mots comme shit, fuck, etc. C'est pour ça que c'est toujours bipé quand il y a ces mots-là. Donc elle a un pouvoir de régulation fort. Évidemment, dans le cas de la neutralité du net, tout le monde se dit que c'est une bonne chose, mais en même temps, on l'a vu tout à l'heure, c'est une bonne chose dans énormément de cas, mais si on veut fournir l'accès Internet gratuitement pour certains services à des pays en voie de développement, eh ben là, on ne respecte plus la neutralité du net. Si on veut faire une gestion de réseau un petit peu poussée en mettant la priorité sur certains types de données qui sont plus urgentes, comme le streaming par rapport à d'autres types de données, et ben là, on ne respecte plus la neutralité du net absolue. Donc, bon, il y a une certaine mesure de gestion de réseau qui est prise en compte a priori dans le texte. Et d'ailleurs, on ferait bien de le noter aussi en Europe, parce que l'Europe est en train de contester cet acquis de la neutralité du net, ou encore qui n'était pas complètement acquis. Vous vous souvenez, il y a un an et demi, je crois, on avait dit l'Europe a adopté la neutralité du net. Et ben en fait, évidemment, c'était une intention, mais elle n'est pas encore faite. Et aujourd'hui, c'est en train de reculer de manière... Ils sont en train de renégocier, et dans cette renégociation, il est possible que la neutralité du net soit clairement en danger parce que les fournisseurs d'accès utilisent un langage et un lobbying extrêmement malin. Ils disent qu'ils veulent pouvoir gérer les choses pour les services essentiels, type santé, pour les voitures, pour ce genre de choses, et qu'ils puissent prioriser les services essentiels. Ensuite, ça induit une quantité de flou qui est difficile à démêler, quoi. Surtout qu'on n'a pas les textes précis. Mais bon, on n'est pas encore à un moment où il faudra agir parce que c'est encore en discussion. Ça ne va pas encore passer au vote, mais gardons un œil vigilant. En Europe, ce n'est pas du tout gagné, la neutralité du net. Alors qu'aux États-Unis, ils sont en train de le pousser.
Ils sont vraiment bien partis pour, ouais.
Bon, on se doute que les fournisseurs d'accès vont faire des procès.
Ils font déjà du bon lobbying, là.
Oui, c'est sûr. J'ai vu Citizen 4. Tu l'as vu, toi, par hasard?
Non,
il est passé 8 fois. Pour ceux qui ne savent pas, Citizen 4, c'est le film de Laura Poitras sur la manière dont elle a... Enfin, elle a en fait filmé tout le processus avec lequel Edward Snowden a révélé ses informations et ses leaks au monde. C'est un documentaire fascinant. Parce qu'elle commençait à filmer déjà dès qu'il l'a contacté, en fait. À l'époque où il ne s'appelait que Citizen 4, c'était son pseudonyme. Et elle a tout filmé. Il y a une grosse partie qui est dans la chambre d'hôtel à Hong Kong, où il était au moment où toutes les révélations étaient en train d'arriver dans le monde entier. C'est un documentaire, c'est vraiment, on regarde l'histoire se produire, quoi. C'était... Mmh.
très intéressant, donc je vous le recommande.
Moi, j'irai sûrement le voir, de toute façon.
Ouais, je pense que c'est à voir, quoi. Et ouais, c'est aussi... Enfin, bon, c'est très... Je vais pas partir, on est dans les news et rumeurs rapides, mais c'est choquant, quoi, à quel point aujourd'hui, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est différent du monde dans lequel on pensait vivre il y a encore 2 ans. C'est assez frappant. DuckDuckGo, est-ce que tu connais DuckDuckGo, Geoffroy ?
Moteur de recherche qui garantit la vie privée, etc.
Exactement. Bah, figure-toi qu'il progresse de plus en plus. Comme je parlais de Citizen 4, je voulais juste mentionner là encore DuckDuckGo, qui est, si vous êtes préoccupé par votre vie privée et que vous ne voulez pas livrer toutes vos informations à Google, il y a une solution, il y a des alternatives, et l'une d'entre elles, la plus populaire, s'appelle DuckDuckGo, comme canard, vas-y, en anglais. Et c'est une option tout à fait viable, quoi. Donc, tu utilises, toi, DuckDuckGo ou pas ?
Absolument pas. J'ai des gros problèmes avec Google et je passe mon temps sur Google et j'utilise tous les services Google et il faudrait que je me désintoxique un jour, mais c'est pas prévu pour l'instant.
C'est marrant, hein. Pourtant, ça marche très bien. On n'a pas de raison d'aller sur Google. Enfin, si, on sait, on a plein de raisons d'aller sur Google parce que c'est un écosystème tentaculaire, mais c'est pas plus compliqué d'aller sur DuckDuckGo, quoi.
Ah, évidemment. Forcément, mais après, c'est les habitudes qu'il faut désapprendre. Et
c'est vrai.
Pas évident.
Peut-être qu'il faudrait que j'essaye à un moment de faire mes recherches, je sais pas, ne serait-ce que pendant une semaine, mettre comme moteur de recherche par défaut dans mon navigateur DuckDuckGo plutôt que Chrome. Ça serait intéressant de faire ce test. Si certains d'entre vous le font, chers auditeurs, dites-nous ce que ça donnera. Essayez de faire le test genre pendant une semaine et vous nous dites dans les commentaires de l'émission ce que ça a donné. On en parlera peut-être dans le prochain épisode si vous nous en parlez. Est-ce que tu as vu ce moteur d'intelligence artificielle de Google qui joue à des jeux, qui apprend par lui-même à jouer à des jeux des années 80 ?
C'est Mario Bros, c'est ça ?
Non, même pas. Non, pas
d'accord.
Du tout.
Non. Alors, je ne l'ai pas vu. J'ai vu l'histoire de Mario qui apprenait lui-même à comment jouer, enfin, comment se déplacer, etc. Au fur et à mesure dans Super Mario Bros. Mais celui-là, je suis passé à côté.
Bah, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon, les jeux sont plus simples, mais en fait, ils ont créé une intelligence artificielle qui se met à jouer à des jeux et qui apprend vraiment toute seule comment devenir meilleur. C'est-à-dire que il va perdre plusieurs fois, il connaît pas le but du jeu, il va perdre plusieurs fois, il va perdre même des dizaines de fois, et au bout de quelques temps, il va finir par savoir comment jouer au jeu. C'est assez frappant, quoi.
Ouais. Très intéressant.
C'est vraiment... Alors, c'est à voir, quoi. C'est un algorithme... Qui est un algorithme d'intelligence artificielle, mais la progression, en fait, est ce qui est impressionnant. Au début, vous voyez, bah, il joue, par exemple, à Defender. Et au début, il y a le pas à Defender, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Il joue à Space Invaders. Oui. Et au début, bah, il meurt, il se fait tirer dessus, il y a les aliens qui arrivent au bout. Et au bout d'un moment, bah, il y arrive, quoi. Il comprend. C'est...
D'accord.
Les robots ne sont pas loin.
C'est marrant.
Est-ce que tu penses que YouTube fait des bénéfices maintenant ?
Oui, évidemment.
T'as lu la news ou pas ?
J'ai vu les notes de l'émission.
D'accord. Et ben, en fait, non. C'est incroyable. Hein. YouTube ne fait toujours pas de bénéfices. Ils ont 4 milliards de dollars de revenus en 2014. Ils font toujours pas de bénéfices.
Faut qu'ils s'inscrivent sur Patreon. Je pense que c'est la meilleure solution.
Possible, mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui commencent à s'inscrire sur Patreon depuis YouTube pour proposer leur contenu gratuitement et sans pub.
Donc, non, mais sinon, il faudrait faire un Kickstarter. Je pense que ça peut marcher un jour, YouTube.
C'est une bonne idée. Bonne idée, c'est un projet d'avenir.
C'est ça.
La Chine a annoncé qu'ils allaient créer des nouvelles lois pour combattre le terrorisme, qui nécessiterait d'avoir dans les logiciels de communication de donner une clé, une master key aux autorités chinoises pour qu'ils puissent déchiffrer les messages. On en parlait le mois dernier à propos des États-Unis. Le truc qui est vraiment marrant, c'est ce qui vient après, en fait.
Qui est
que Obama a critiqué la Chine
pour cette, demande en disant que ça, le fait de demander aux entreprises américaines de fournir un accès à leur réseau, enfin de fournir un accès, un backdoor,
au serveur,
n'était pas acceptable. Voilà, n'était pas acceptable et que la Chine devait changer cette loi s'il voulait continuer à travailler avec les États-Unis.
Alors qu'en parallèle, on a appris qu'Android serait finalement pas chiffré parce que justement l'administration américaine voulait toujours avoir accès aux données qui passaient dans Android.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Android n'est pas chiffré pour une question de puissance encore.
Oui,
mais par contre, Obama n'est pas chiffré par
l'administration américaine.
Mais non, mais c'est même plus que ça. C'est que l'administration Obama demande des backdoors dans les mêmes logiciels. C'est invraisemblable. Et comment peut-il, en gardant un visage sérieux, dire que la Chine n'a pas le droit de demander ce genre de choses en demandant lui-même ce genre de choses par ailleurs? C'est... Enfin, ça me... Je suis complètement éberlué, quoi. Éberlué. Et d'ailleurs, il y a eu un échange lors d'une conférence, il n'y a pas si longtemps, entre un responsable de Yahoo et un responsable de service secret américain, où justement le responsable lui disait, c'était il y a 2 ou 3 semaines, avant que cette histoire ne soit dévoilée, il disait, mais rendez-vous compte, si vous nous demandez ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut également nous plier aux demandes d'autres pays qui nous demanderaient la même chose? Et le type refusait de lui répondre. Il lui a dit, mais répondez-moi, je vous pose une question simple, noir sur blanc, oui ou non? Et le type, il disait, ah mais non, on peut travailler ensemble, c'est techniquement faisable de faire ça. Il lui dit, mais... Et là, on a un exemple exact, quelques semaines après, de ce problème. Et, enfin bon, c'est... Je
comprends. Marche sur la tête.
Je vais passer cette news sur Tor et Twitter pour dire simplement que du côté de l'Union européenne, les livres électroniques ne sont plus éligibles à une taxe de...
La taxe réduite de 5,5%.
Voilà, exactement.
Comme c'est le cas pour le livre papier, ce qui est assez drôle, mais qui va l'être moins pour le consommateur, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des livres électroniques qui sont... normalement, après ça dépend des éditeurs, mais moins cher que la première édition papier, mais qui reste plus cher que l'édition poche. Et avec l'augmentation, donc le passage de la TVA sur le livre électronique de 5,5 à 20%, on pourrait avoir des livres qui soient encore plus chers que des livres électroniques plus chers que les versions poche. Donc à voir comment les éditeurs vont répercuter ça, est-ce qu'ils vont le répercuter ou est-ce qu'ils vont manger leur marge. En tout cas, ils sont en train de faire un gros lobbying là-dessus.
Ouais, c'est assez assez préoccupant, franchement, cette histoire. Je suis assez... Enfin bon, bref, c'est une question de livres électroniques, comme s'ils avaient besoin de ça pour avoir des bâtons dans les roues. Est-ce que tu es un utilisateur et un fan de drones, toi ?
Alors, on en a eu un au bureau récemment avec lequel je me suis beaucoup amusé, mais un Midi. Et non, je n'en utilise pas, je n'en ai pas sinon, en dehors de ça.
Bon, donc tu n'auras pas besoin de faire immatriculer ton drone. Il est possible que, suite aux histoires dont on a entendu parler ces derniers temps avec des drones qui
rôdent dans Paris la nuit.
Voilà, exactement, dont on ne sait pas ni d'où ils viennent, ni à qui ils appartiennent, ni quoi que ce soit.
Ils sont parmi nous.
mais c'est, à vrai dire, c'est un peu inquiétant parce qu'on ne sait pas qui les utilise. Ça se trouve, c'est des petits plaisantins. Ça se trouve, c'est des gens qui cherchent à tester les services de sécurité pour des choses un petit peu moins...
Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la panique non plus. Hein.
Bien sûr.
Vendu récemment et je pense qu'il y a simplement gens qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas le droit de les faire voler dans Paris.
C'est possible. Enfin, maintenant, ils sont au courant, en tout cas.
Maintenant, ils sont au courant, après être passés aux 20h.
C'est ça. Eh bien, peut-être qu'il va falloir les faire immatriculer. Et qui dit immatriculation dit permis, dit carte grise ou ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas, mais ça va être intéressant. Mais on y réfléchit. Je crois que c'est au niveau européen, d'ailleurs. Je ne crois pas que ça soit uniquement au niveau français. Peut-être que je me trompe. Et dernière chose, il y a une conférence Free demain matin. Oui. Est-ce que tu sais ce qu'ils vont annoncer? Est-ce que tu peux nous le dévoiler?
J'ai toutes les infos. D'accord. Je vais tout te dire dès maintenant. Non, j'en sais absolument rien, c'est très inattendu. La dernière grosse conférence Free comme ça, c'était sur Free Mobile. Je vois pas ce qu'ils pourraient annoncer. Vraiment pas. Je pense pas que ça soit un produit. Je pense pas que ça soit simplement des innovations sur leur forfait parce qu'ils auraient pas fait de conférence pour ça. Donc non, surprise.
Si c'est...
si c'est ni un produit ni dans les forfaits, il reste rien. Hein.
C'est ça. Ça peut être du réseau, du déploiement de la fibre, j'en sais rien.
Ouais, il y a des gens qui disaient peut-être le forfait à 2 euros qui passe gratuit pour tout le monde, pas seulement pour les abonnés free. Moi, ça me paraît possible.
Pourquoi pas ? Mais encore une fois, non, c'est une conférence pour ça.
Ouais, juste pour ça, ça fait beaucoup. Ouais.
Voilà.
Bon.
Ils vont peut-être acheter Bouygues.
Ah, peut-être, oui, finalement.
Tout va se resserrer autour d'Orange, Bouygues, enfin Free ouais. et Numéricable.
Ça me paraît peu probable. Hein, mais...
Ça paraît très peu probable.
Bon, et ben voilà, on arrive à la fin de l'émission. Je voulais faire une petite minute jeux vidéo avec les Steam Machines, etc. Mais de toute façon, on en a parlé dans le rendez-vous jeu. Donc, vous pouvez vous donner rendez-vous dans le rendez-vous jeu que j'ai fait il y a une petite semaine avec mon ami Dany. Même pas une semaine, 4 jours. Avec mon ami Dany, que certains connaissent depuis Azeroth.fr. Et donc, l'émission est toujours sur French Spin. .fr évidemment, et on a parlé de tout ça, on a détaillé tout ça, donc vous pouvez avoir tous les détails des annonces gaming dans le rendez-vous jeu. Merci beaucoup Geoffroy, c'était sympa.
Et ben merci Patrick pour l'invitation.
Est-ce que les gens peuvent te retrouver quelque part sur internet? Ah tiens, je viens de me rendre compte que tu es le prochain Patreon patriote que je dois remercier.
Je me demandais quand est-ce que ça arriverait. Serait drôle que ça soit là.
Ah, mais à une personne près, tu sais quoi, je te remercie en live maintenant. Geoffroy Husson, merci d'être patriote et je te remercierai aussi au prochain épisode du coup.
Eh ben, c'est bon.
Mais entre-temps, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet?
Alors, on peut me retrouver sur tomsguide.fr, qui est un site d'actualité tech généraliste très axé produits. Donc tomsguide.fr, sur mon compte Twitter, twitter.com/griffou, 2F et 4O.
4 O, voilà, c'est ce, qu'il faut, o, ce voilà. qu'il faut noter. Ouais.
C'est ça, 2 F et 4 O. Et okay. Sur mon podcast, qui est un podcast audio mensuel dans lequel on parle de cinéma, de séries télé et de comics, qui s'appelle Culture Breakdown, Culture K-U-L-T-U-R.
Avec un K, comme les...
comme à l'allemande, en fait.
Pardon. Comme les... Non, c'est pas comme les éternuements, c'est à l'allemande. Moi, j'allais dire comme les Jones, tu vois, parce que c'est genre la culture.
Non, c'est à l'allemande, c'est qu'on est avec Xavier, qui est un germanophone convaincu, et avec Lucie, qui est journaliste tech au Figaro aussi.
D'accord. Eh ben, très bien, c'est sur Culture Breakdown, avec un K à l'allemande. C'est ça. Merci Geoffroy. Pour merci ma part, Patrick. C'est NotePatrick sur Twitter, c'est sur FrenchSpin.fr pour retrouver les notes de l'émission, les commentaires, les autres podcasts comme le Rendez-vous Jeu et plein d'autres choses aussi. Et bien sûr, c'est sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission si vous souhaitez le faire. On vous remercie tous et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Bye.